Bien, donc, alors, je remercie évidemment les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité. Et je vais vous parler, comme c'est annoncé sur le programme, du thème suivant, la dignité de l'homme et la bioéthique. Alors, il va y avoir dans mon propos trois moments, un moment introductif, un moment, et puis deux moments un peu plus développés, une conclusion très rapide. En premier moment, je voudrais rattacher la question que je vais traiter à celle du colloque qui est organisé ici, c'est-à-dire la représentation du vivant. Bon, pour moi, ce thème de la représentation du vivant, il englobe le thème de l'évaluation du vivant. On ne se représente pas simplement les êtres vivants de façon objective et détachée, mais comme exprimant certaines valeurs ou comme dotés de certaines valeurs. Or, les êtres humains sont des êtres vivants, donc lorsqu'ils se représentent eux-mêmes, ils se représentent et s'évaluent comme des êtres vivants. Mais, ça vient de vous être rappelé, ils ne sont pas que des êtres vivants et ils vont s'évaluer eux-mêmes d'une façon originale. Cette évaluation ne sera pas la même, elle ne se fera pas sur le même registre, elle n'emportera pas les mêmes enjeux que, par exemple, l'évaluation de la vie animale, même lorsqu'il s'agit d'animaux qui semblent proches, comme les singes supérieurs. Or, une façon classique d'exprimer cette différence, c'est de distinguer et d'opposer le bien-être des animaux et la dignité de l'homme. Or, c'est cette notion de dignité de l'homme que je voudrais interroger en votre compagnie. En effet, ce concept de dignité de l'homme, il en est venu à occuper une place de plus en plus éminente dans toutes sortes de textes internationaux et spécialement dans des textes relatifs à l'éthique médicale ou à la bioéthique. Alors, je vais vous donner quelques exemples et puis j'entrerai dans le vif de l'argumentation. Alors, à ma connaissance, la première apparition de ce concept, on le trouve dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1848, qui dispose en son article premier, je cite, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité ». Fin de citation. Alors, la Déclaration ne définit pas plus avant le terme de dignité et elle ne l'explicite pas non plus. Alors, ce sont des débuts plutôt modestes, mais le terme a connu par la suite une carrière tout à fait importante. La Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme, qui est un texte de 1997, compte près de 10 occurrences du terme dignité, et il est d'ailleurs remarquable que cette déclaration suggère que le thème peut s'appliquer non seulement à des individus, mais à des groupes humains. Autre indice de la dynamique, la version remaniée en octobre 2000 de la déclaration d'Helsinki, dont je vous dis quelques mots. Cette déclaration a été initialement formulée en 1975 par l'Association médicale mondiale et elle énonçait les principes fondamentaux de la recherche biomédicale lorsque celle-ci portait sur des sujets humains. La version 1975 de la déclaration d'Helsinki indiquait qu'une telle recherche ne devait jamais faire passer les intérêts de la société avant ceux du sujet et elle soulignait d'autre part le droit de celui-ci à sauvegarder son intégrité physique, son intégrité mentale, sa vie privée et sa personnalité. La version remaniée, en octobre 2000, va condenser tout cela en un article qui dit ceci, je cite, « Dans la recherche médicale, le devoir du médecin est de protéger la vie, la santé, la dignité et l'intimité de la personne. » Fin de citation. Alors, je pourrais multiplier des exemples, je ne vais pas le faire évidemment, mais ce que je voudrais dire, c'est que les économistes, lorsqu'ils ont affaire à une pareille situation, parlent d'inflation. Et un recours aussi massif et réitéré à la dignité humaine a sans doute une signification. Alors, comme je ne suis pas spécialiste de l'interprétation des faits sociaux, je ne me risquerai pas à l'interpréter, mais en revanche, comme je suis philosophe, je vais essayer d'apporter un peu de clarté dans cette question qui, au bout du compte, est quelque peu obscure et embrouillée. Alors, je viens de faire observer que l'expression dignité humaine pouvait se substituer à une expression comme intérêt du sujet. Ce qui me semble remarquable, c'est qu'elle est également susceptible de se substituer à une expression comme sacralité de la vie. D'où ma démarche maintenant, après ce premier moment, dans un premier temps, exposer dans une de ces interprétations ce que c'est que le concept de sacralité de la vie et en montrer les limites, puis dans un deuxième temps, montrer comment le concept de dignité est censé éviter les difficultés liées à la sacralité de la vie. La thèse principale que je défendrai va être la suivante. Le concept de dignité de l'homme ne peut faire mieux que celui de sacralité de la vie que si on l'interprète d'une façon non kantienne. Alors, j'ai bien conscient du risque que je prends dans cette maison à dire du mal de Kant, mais après tout, je vais m'y risquer. Donc, second moment, qu'est-ce que c'est que la sacralité de la vie ? Alors, j'insiste là-dessus. Pour l'instant, je ne prends qu'une interprétation de ce concept. Alors, pour commencer, je distinguerai ce qu'on appelle la sacralité de la vie, sanctity of life, de la crainte révérentielle devant la vie. Alors, la crainte révérentielle devant la vie, c'est une expression qu'on doit à Albert Schweitzer, qui est, à mon avis, quelqu'un de très injustement méconnu, et je traduis ainsi ce qu'il exprime par Ehrfurcht vor dem Leben, crainte révérentielle devant la vie. Alors, que dit Schweitzer ? Eh bien, il dit qu'à partir de la Renaissance, les Européens ont voulu créer des valeurs spirituelles et matérielles au service du développement supérieur de l'individu et de l'humanité. Alors pour lui, le bilan est pour le moins ambigu. Le monde de la machine, qui a été conçu et instauré à cet effet, est venu s'interposer entre l'humanité et le but visé par elle. Les hommes se sont mis à leur insu au service des machines, exclusivement préoccupés d'agir sur la nature, ils en sont venus à développer une illusion d'insularité et à se croire à part dans l'univers. Ils ont perdu le sens de la solidarité cosmique entre tous les vivants et Albert Schweitzer dit, au fond, si on enlève ce voile de la technique, hors de tout projet de maîtrise et de possession de la nature, un être humain, en effet, n'est pas d'abord un sujet pensant, mais avant tout, je le cite, une vie qui veut vivre parmi la vie qui veut vivre. C'est un thème schopenhauerien tout à fait classique. Alors, ce que rajoute Schweitzer, c'est que qui est saisi par ce vouloir vivre universel infini va éprouver une crainte révérentielle devant la vie. Alors ça, c'est la crainte révérentielle devant la vie. Mais la sacralité de la vie, par opposition à ce que je viens de dire, s'attache essentiellement à la vie humaine individuelle. Ce n'est pas une solidarité avec la vie en général, ni une admiration devant les configurations que produit la nature artiste. Et pour expliquer de façon rapide ce que c'est que la sacralité de la vie, je vais reprendre une analyse de Sir Emmanuel Jakobowitz dans un livre qui a maintenant une vingtaine d'années. Et selon lui, la sacralité de la vie, c'est la thèse selon laquelle la vie humaine individuelle a une valeur infinie. Cette valeur est notamment indépendante de sa qualité et de sa durée, mais elle n'est pas indépendante de la dignité de son détenteur. Il faut que ce soit une vie innocente, c'est-à-dire non entachée, dit-il, de certains crimes qui méritent la mort. Bien, admettons que la vie individuelle humaine innocente ait une valeur infinie. Qu'est-ce qu'il s'ensuit ? Eh bien, il s'ensuit que toutes les vies humaines innocentes individuelles ont la même valeur et qu'il n'existe pas de possibilité de comparaison intersubjective permettant d'affirmer qu'une vie est supérieure à une autre. Mais, c'est la suite de l'analyse à laquelle je fais allusion, il s'ensuit aussi que n'importe quelle fraction d'une vie innocente a la même valeur que n'importe quelle autre, quelle que soit par ailleurs les expériences subjectives éprouvées pendant ce laps de temps, ce qui veut dire, de façon un peu plus abstraite, qu'il n'y a pas de comparaison intrasubjective permettant d'affirmer qu'une partie d'une vie innocente est supérieure à une autre partie de cette vie innocente. Bien. Voilà donc la thèse radicale de la sacralité de la vie. Alors, quel est son intérêt ? Eh bien, elle semble impliquer l'inviolabilité absolue de la vie humaine et la non-discrimination entre les vies humaines, ce qui semble une chose plutôt recommandable. Un exemple, je vais vous donner une citation. « Il n'y a, dit l'auteur de cette formule, aucun homme, aucune autorité humaine, aucune indication médicale, eugénique, sociale, économique, morale, qui puisse exhiber ou donner un titre juridique valable pour disposer directement et délibérément d'une vie humaine innocente, c'est-à-dire en disposer en vue de sa destruction. Fin de citation. Alors, de qui cette formule ? Eh bien, du pape Pie XII, dans un discours prononcé en 1951 à une assemblée de gynécologues et d'accoucheurs. Donc, il semblerait que la sacralité de la vie comporte un bénéfice, l'affirmation de la sacralité de la vie comporte un bénéfice, c'est que la vie humaine est inviolable. Mais, selon l'interprétation que j'en ai donnée, une des difficultés qu'elle soulève, c'est qu'elle semble également interdire certaines pratiques médicales que nos intuitions spontanées et même nos intuitions réfléchies tiennent pour licites. Alors, un exemple qui est presque un exemple de manuel, un cas d'école, une figure paradigmatique de cette aporie de la sacralité de la vie. Supposons qu'une équipe médicale prescrive des antalgiques à un mourant qui éprouve de vives douleurs. Bon, ce traitement le soulage, mais il provoque, ce qui est souvent le cas, une insuffisance respiratoire. Vu son état de faiblesse, il décède. Sans antalgique, il aurait pu être maintenu en vie quelques heures, voire quelques jours de plus. Malgré tout, nous avons tendance à penser qu'il s'agit là d'un traitement médical approprié, à tel point que le Code français de déontologie médicale, dans sa version de 1979, comportait un article qui, si on le lisait entre les lignes, approuvait ce type d'attitude. Pourtant, selon l'interprétation de la sacralité de la vie à laquelle je viens de faire allusion, ce n'est pas le cas. En effet, essayons de voir ce qui s'est passé. Supposons que la décision d'administrer les antalgiques ait été prise à l'instant T et que le malade ait alors vécu 48 heures avant de décéder, sans souffrance insupportable, d'une insuffisance respiratoire induite par le traitement. 48 heures. Supposons également que si en T, à l'instant T, on n'avait pas pris la décision d'administrer les antalgiques, le malade aurait vécu 96 heures avant de décéder des suites de sa maladie dans de vives souffrances. Qu'est-ce qu'ont fait les médecins ? Eh bien, il est évident qu'ils ont considéré qu'il valait mieux pour leur malade vivre 48 heures sans souffrance que 96 heures en éprouvant de vives souffrances. Mais c'est une violation flagrante et évidente du principe de la sacralité de la vie sous la forme à laquelle je viens de faire allusion, qui nous dit que n'importe quelle fraction d'une vie innocente a la même valeur que n'importe quelle autre, quelles que soient par ailleurs les expériences subjectives éprouvées pendant ce laps de temps. Et donc, il semblerait, à ce moment de la réflexion, qu'on ait ici quelque chose qui pose problème. La sacralité de la vie telle qu'elle vient d'être définie rend illicite certaines pratiques médicales que le bon sens semble considérer comme allant de soi. Et donc, ça va être le troisième moment de mon exposé, je voudrais me demander si on ne peut pas remplacer le principe de la sacralité de la vie par un autre principe qui pourrait tenir son rôle sans avoir les inconvénients que je viens de souligner. Et ce principe, on pourrait proposer comme candidat celui de la dignité de la personne humaine. Alors reprenons les choses. Comme je l'ai suggéré il y a quelques instants, et comme ça a été souvent remarqué par mes collègues qui s'occupent de bioéthique, il y a en fait deux aspects du principe de la sacralité de la vie. Lorsqu'il s'applique à la vie et à la mort en général, il affirme la valeur infinie de toute vie humaine et notamment la valeur infinie de chaque moment de toute vie humaine. Mais lorsqu'il s'applique au fait de mettre à mort, il affirme l'inviolabilité absolue de toute vie humaine. Donc deux aspects hein, de ce principe tel que je l'ai formulé jusqu'à maintenant. Le problème serait peut-être le suivant. Est-ce qu'on peut avoir quelque chose qui permet d'affirmer l'inviolabilité de la vie humaine sans avoir les conséquences indésirables que j'ai évoquées. Et là, on est à la croisée des chemins. On pourrait, dans un premier temps, reformuler le principe de la sacralité de la vie, et c'est ce que font, par exemple, les théologiens catholiques, pour qui la vie humaine est sacrée, en ce qu'elle est un don de Dieu sur lequel les hommes n'ont pas un droit absolu de propriété. Ils en sont les usufruitiers. L'usage qu'ils peuvent en faire est limité par les commandements de la loi naturelle. Or, la loi naturelle, disent-ils, ne considère pas que tout moment d'une vie humaine, si détériorée soit-elle, est équivalent à n'importe quel autre moment de la vie humaine. Ou bien, on pourrait, je le répète, chercher un principe alternatif qui garantirait l'inviolabilité de la vie humaine, ce que tout le monde estime nécessaire, sans être tributaire d'hypothèses encombrantes sur la valeur infinie de toute fraction de la vie humaine, ce que tout le monde, ou presque, estime indésirable. Alors, cherchons, du côté de Kant, ce principe alternatif. Et on pense évidemment à la seconde formulation de l'impératif catégorique, qui consiste, excusez-moi de rappeler cette banalité, à traiter l'humanité dans sa personne, aussi bien que dans celle de tout autre, toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen, vous reconnaissez tous la formule des fondements de la métaphysique des mœurs. Si nul ne peut jamais disposer à sa guise des personnes, ni les considérer comme de simples moyens de réaliser ses propres fins, la formule semble bien garantir l'inviolabilité de la vie humaine innocente. En effet, attenter à une vie humaine innocente, c'est la traiter comme un moyen pour réaliser des fins auquel le titulaire de cette vie n'adhérerait probablement pas. D'un autre côté, Kant ne dit jamais, à ma connaissance, que chaque moment d'une vie humaine a une valeur infinie, ce qui lui permet d'éviter les difficultés du genre de celles que j'ai soulignées tout à l'heure. Donc, à première vue, on est gagnant. Le principe du respect de la personne, le principe du respect de la dignité de la personne, permet, semble-t-il, de garantir tout ce que permettait de garantir le principe de la sacralité de la vie, sans être tributaire de ces options discutables. Mais pour autant, et c'est là que je vais me mettre à dire du mal de Kant, pour autant, la position kantienne n'est pas sans difficulté. Elle est tributaire d'une ontologie et d'une axiologie dont ni l'une ni l'autre ne vont de soi, et pour les connaître, il suffit de lire les premières lignes de l'anthropologie du point de vue pragmatique. L'ontologie kantienne. Alors, bon, les kantiens de stricte obédience diront que chez Kant, il n'y a pas d'ontologie, mais en fait, ce n'est pas vrai, il y en a une, elle est camouflée. C'est une ontologie de personnes et de choses, la personne étant une entité qui possède le « je » dans la représentation. Cette possession est constitutive de l'identité personnelle, et en outre, le fait de la conscience unitaire de soi marque la frontière entre les êtres de nature et les êtres de liberté, pour employer un idiome qui n'est pas exactement celui de Kant, mais de notre actuel ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry. L'axiologie kantienne, l'axiologie conforme à cette distinction, elle consiste à dire que les choses ont un prix et que les personnes ont une dignité. Bon, donc tout ça, c'est très bien. Une ontologie, une axiologie, on a pratiquement tout ce qu'il faut pour faire une morale. Mais l'une et l'autre sont discutables. Pourquoi ? Eh bien, parce que la dignité humaine, d'abord, ne semble lui être concédée qu'au prix d'une situation d'étrangeté et d'insularité dans le monde naturel. Le monde naturel apparaît au mieux comme le décor où se joue l'aventure de l'humanité, voyez les textes de Kant sur l'histoire, au pire comme ce qui résiste à sa vocation propre. Interpréter ainsi la dignité de l'homme, c'est sans doute, même si ce n'est pas l'intention de Kant, l'inscrire dans une tradition initialement stoïcienne, mais reprise dans le christianisme par Lactance au début du IVe siècle, selon laquelle le monde et tout ce qu'il enferme a été fait en vue de l'homme. Ça, c'est pour dire que la position kantienne met le vivant dans une situation, je pèse mes mots, d'apartheid au sens par rapport au reste du monde. Mais c'est discutable aussi pour une raison plus technique, qui est la suivante, c'est que la dignité au sens kantien du terme est opposable à celui qui la détient. Ce n'est pas seulement en la personne de tout autre, mais aussi en sa propre personne, qu'on ne doit jamais traiter l'humanité simplement comme un moyen, mais toujours en même temps comme une fin. Et pour cette raison, Kant condamne, comme chacun sait, le suicide, au motif que par le suicide, on sacrifie une personne aux intérêts d'un être humain empirique, et donc qu'on va contre ce qui devrait être. Or, si le suicide nous semble, enfin me semble en tout cas, effectivement une tragédie, il me semble aussi relever de la sphère de la souveraineté personnelle ou individuelle, pas de la sphère des commandements moraux ou des interdictions morales légitimes. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de bricoler un peu la dignité au sens kantien pour en faire quelque chose qui, d'une part, génère des interdictions strictes par rapport aux autres, mais pas des interdictions du même ordre par rapport à soi-même. En d'autres termes, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une version de la dignité qui s'applique dans les relations interpersonnelles, mais pas dans le fort intérieur, lorsque les circonstances enchevêtrées de l'existence renvoient l'individu à lui-même? Alors je pense que oui, et pour ce faire, j'ai interprété de façon personnelle une distinction qui est faite par Stephen Darwall dans un article assez récent qui s'appelle « Two kinds of respect », deux sortes de respect qui se trouvent dans la revue Ethics. Alors que fait Darwall? Eh bien, il dit « Il y a un premier type de respect qu'il appelle « recognition respect », respect fondé sur une reconnaissance, et ce respect, qui peut porter sur toutes sortes d'entités, consiste à leur accorder un poids approprié à certaines de leurs caractéristiques. Le second type de respect, appraisal respect, je traduis respect fondé sur une évaluation, a pour objet les personnes en tant qu'elles sont susceptibles de manifester des excellences dans la poursuite de quelques buts spécifiques. Alors maintenant, essayons de voir comment ces deux sortes de respect peuvent s'appliquer dans les relations avec les autres et dans les relations avec soi-même. Dans les relations avec les autres, on pourrait considérer qu'en n'importe quelle circonstance, un respect de reconnaissance est dû aux autres à titre, si je puis employer cette expression un peu triviale, de service minimum. Le simple fait qu'il s'agit de personnes interdit certains types de traitement à leur égard, par exemple, parce qu'on reconnaît leur autonomie. Par exemple, parce qu'on reconnaît que chaque personne a sa propre conception de la vie bonne et que c'est leur manquer de respect, ne pas reconnaître leur dignité, que de s'immiscer dans l'exercice de cette autonomie. Bien entendu, une condition de l'exercice de cette autonomie, c'est l'inviolabilité de la vie. Toujours dans les rapports avec autrui, au-delà du respect de reconnaissance, on pourrait considérer qu'il existe un respect fondé sur une évaluation. Un tel respect n'est pas commandé, il est surérogatoire et il dépend tout simplement de l'approbation que l'on peut avoir à l'égard de ce que quelqu'un a fait de lui-même. Ça, c'est dans les rapports avec autrui. Il y a une forme minimale de respect fondée sur la reconnaissance qui interdit un certain nombre de choses, plus un respect facultatif qui correspond à la reconnaissance en les autres de quelque chose que l'on approuve. Maintenant, quand on a affaire à soi-même, qu'en est-il du respect et de la dignité que l'on peut éprouver? Eh bien, il me semble que l'idée qu'on puisse se respecter soi-même parce qu'on détecte en soi-même la présence de propriétés qui sont celles d'un être respectable, pour parler comme Kant, un homo noumenon derrière un homo phénoménon, c'est une idée tellement inadéquate qu'elle ne mérite rien d'autre qu'un ricanement ou un haussement d'épaule. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Le respect que l'on peut éprouver pour soi-même, et qu'il serait bien plus juste d'appeler l'estime de soi, c'est un respect fondé sur l'appréciation, pas un respect fondé sur la reconnaissance. Et à ce titre, la dignité qui s'y attache n'est pas opposable à celui qui en fait preuve. Ma conclusion en quelques mots. En matière de bioéthique, il me semble qu'une partie des problèmes qui se rencontrent viennent du fait qu'on manque à faire cette distinction entre un respect de reconnaissance et un respect d'évaluation. En effet, on peut être tenté de distribuer des avantages ou de faire endosser des risques en fonction de l'appréciation d'une dignité liée à l'évaluation du caractère. Et donc, on traite une question de justice, on décide une question de justice à partir d'un critère qui n'est pas celui des relations interpersonnelles, mais à celui de l'estime de soi. Inversement, on peut imposer aux individus, dans un domaine qui devrait rester celui de l'estime de soi, des restrictions qui n'ont de sens que dans le domaine des relations interpersonnelles. C'est pour ça que Kant interdit le suicide. Il croit que l'attitude de l'individu à l'égard de lui-même est régie par les mêmes normes que l'attitude des individus entre eux. Ici, l'erreur, ça a été de se traiter soi-même selon des critères qui n'ont de sens que lorsque l'on a affaire aux autres. En conclusion, il me semble que si on distinguait ces deux sortes de respect et ces deux sortes de dignité, on y verrait peut-être plus clair dans les questions de bioéthique.
Merci. Je sais qu'il y a beaucoup de médecins dans la salle. Est-ce qu'il y a des kantiens dans la salle ?
À l'école normale supérieure, forcément. Il y a...
question de détail. Il y a des mouvements actuels, laïcs, humanistes, qui luttent pour un élargissement d'une forme d'euthanasie et qui s'appellent mouvement pour le respect à vivre dans la dignité, justement. Sur quelle dignité ? Sur quoi s'appuie-t-il ? Quelle est leur dignité ?
Alors, oui, ça s'appelle exactement, si je ne m'abuse, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Déjà, ils font... allusion, dans le simple fait de s'appeler Association pour le droit à mourir de la dignité, à une notion qui est un peu étrangère à mon propos, et c'est la notion de droit. Tu observeras que j'ai fait exprès, je n'ai pas parlé de droit dans le propos qui est le mien. Alors il me semble précisément qu'ils sont en train de confondre justement ces deux sens de la dignité et du respect. En fait, ce qu'ils défendent, si j'ai bien compris, c'est une forme de suicide assisté, hein, cette forme d'euthanasie active qu'on appelle le suicide assisté. Et donc, le raisonnement qui est derrière, me semble-t-il, est le suivant. Lorsqu'un individu estime à propos de lui-même que sa vie n'a plus de signification, que sa vie n'a plus de potentialité, etc., il peut soit mettre fin à ses jours, soit faire mettre fin à ses jours par quelqu'un qui en est capable et qui a les compétences techniques pour le faire. Alors, il faut distinguer. Ils disent, si je m'estime moi-même englué dans une vie qui n'a plus de potentialité, etc., je peux mettre fin moi-même à mes jours. Ici, c'est une situation très simple de appraisal respect. On ne s'estime plus soi-même et on en tire la conclusion que la simple existence biologique qui est la sienne n'a plus de raison d'être. Bon. Donc là, ça va très bien. Ce qui gêne dans la suite de la démarche, c'est qu'ils pensent qu'on peut mettre en tiers quelqu'un, enfin, on peut mettre une tierce personne, on peut engager une tierce personne dans la décision et réclamer, comme si c'était un droit, l'intervention de quelqu'un qui vienne techniquement mettre à mort quelqu'un qui n'est pas capable de le faire lui-même. Alors donc, dans les deux versants de ce que j'ai dégagé là, je suis tout à fait inconditionnellement d'accord avec la première partie. La deuxième pose toutes sortes de problèmes qu'on ne peut pas traiter comme ça au débotté.
Madame.
Monsieur, moi, je voudrais vous poser une question. Il se trouve que je suis professeur de droit. Alors, j'étais très intéressée par votre analyse. Mais il y a tout de même quelque chose qui m'a frappée, c'est que vous avez commencé votre exposé en vous appuyant sur des énoncés juridiques. Qui, pour nous, n'ont ni le même rôle, ni la même fonction que ceux que vous leur imputez. Et notamment, je voudrais quand même ici rappeler, parce que c'est quelque chose qui est constamment occulté, que ce fut heureusement un projet qui ne vit jamais le jour, puisque le gouvernement de Vichy a trouvé sa fin dans les conditions que vous connaissez. Mais sachez que le premier projet juridique français faisant explicitement référence à la dignité dans un énoncé juridique, et c'était le projet de la constitution du gouvernement de Vichy, c'était dans cette constitution, ce projet de constitution, et que bien entendu, qui dit dignité et nous le savons, nous juristes, permet de penser l'indignité. Et il y a dans le Code civil des situations d'indignité. Et bien sûr, on posait juridiquement le principe de dignité, mais si je puis dire, je vous rassure, et bien entendu, mon propos est totalement ironique, derrière, on décrivait toutes les populations, je n'ai pas besoin de vous dire lesquelles, qui ne seraient pas aptes à cette dignité. Donc moi, le concept, personnellement, n'est pas sans me poser problème. En plus, on cite toujours, comme par hasard, effectivement, la Déclaration universelle de 1948, qui est fort intéressante, mais qui n'a aucune application juridique dans les États, parce que ça, c'est les principes du droit international. Donc c'est très bien de gloser dessus, c'est très intéressant, mais on ne peut pas les utiliser. Par ailleurs, quand vous avez évoqué effectivement les questions liées aux activités médicales, et je reviendrai tout à l'heure, c'est qu'elles ont une particularité, en tous les cas certaines d'entre elles, c'est de porter atteinte à l'intégrité physique des personnes. Or, c'est la seule profession, vous m'entendez bien, c'est la seule profession, ce sont les seules personnes qui peuvent légitimement porter atteinte à l'intégrité physique des personnes sans qu'on les soupçonne, je précise, a priori. Encore faut-il que soit faite la démonstration que cette atteinte à l'intégrité physique constitutive de coups et blessures volontaires est faite dans l'intérêt du patient. Et tout l'enjeu des lois bioéthiques en France, ça a été de légitimer des pratiques qui portent atteinte à l'intégrité physique de la personne sans qu'il y ait, bien entendu, un quelconque intérêt thérapeutique pour cette personne. Et vous avez terminé sur un exemple tout à fait passionnant, monsieur. La revendication du droit à mourir dans la dignité, c'est fait exactement, enfin, c'est pas fait exactement, c'est fait sur un modèle voisin de celui qui a été conceptualisé à propos de l'IVG. Et là, je vous en parlerai, c'est le concept de détresse. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, et j'ai été très intéressée, monsieur, par votre exposé ce matin, parce que en vous écoutant, on voyait bien une des difficultés auxquelles sont confrontés un certain nombre de médecins dans leur pratique, c'est quelque chose que je pourrais appeler la subjectivité. Une femme qui est enceinte et qui ne veut pas avoir d'enfant, ce n'est pas une maladie. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait appel aux techniques médicales. Et au bout de la vie, vous avez des mouvements voisins, identiques, qui se posent dans des termes, en tous les cas voisins, qui est de dire « je demande que l'assistance d'un médecin ». Et c'est pour ça, par exemple, que le droit de la Hollande a fait toute une construction juridique parfaitement cohérente, hein, où là, il s'agit de préciser si l'État est d'accord pour dire que dans ce cas, le médecin qui, après une demande contrôlée, etc., interviendrait, ne serait pas tenu pour coupable de. Et dernier point, il faut être attentif au fait qu'on a, par exemple, dans le Code civil maintenant, un énoncé juridique du droit à l'inviolabilité d'une personne. Eh bien, cher monsieur, vous êtes manifestement tout à fait paisible, mais vous viendrait-il l'idée, par exemple, tout d'un coup, de vous fâcher à mon encontre et vous sortir un pistolet? Eh bien, je vous garantis qu'il sera tout à fait non opératoire que je vous dise, monsieur, le Code civil me dit que vous n'avez pas le droit de porter atteinte à mon intégrité physique. Hein? Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si jamais vous portez atteinte à mon intégrité physique, là où autrefois on ne pouvait faire qu'un procès pénal, parce que c'est une infraction pénale que de porter atteinte à l'intégrité physique, je pourrais décider de faire un procès civil pour demander réparation sur le fondement du non-respect du droit A. Donc ce sont des modes de protection qui sont beaucoup plus fragiles qu'on veut bien le dire. Et bon, j'en resterai là parce que.
Oui, je pense que vous aurez la parole tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y avait une question? Il y avait une question, c'était un commentaire. Oui. Une question?
Je ne sais pas si je dois répondre à ça. Parce que
oui, je vous en prie.
Si, bon.
Oui, tout à fait. Allez-y.
Oui. Bah, si vous voulez, il faut, je sais pas, faut distinguer. Moi, je suis parti d'une constatation qui est que précisément, dans un certain nombre de textes, le concept de dignité se met à faire surface, alors qu'auparavant, on ne le trouvait pas. Bon, alors moi, je ne suis pas juriste, mais en tant que philosophe, ça peut m'intéresser de préciser un petit peu ce qu'on entend par dignité. Alors, d'une part, c'est clairement une notion qui a une filiation religieuse. Si on regarde quels sont les thèmes qui rattachent le concept de dignité à notre histoire, il y en a trois essentiellement. Il y a le livre de la Genèse 1:26, l'image et la ressemblance. Il y a le fait qu'on trouve, par exemple, dans le De Natura Deorum, chez Balbus, le stoïcien, l'idée que le monde a été fait pour les êtres rationnels. Et puis, il y a une thèse très néoplatonicienne, sans laquelle l'homme est une espèce de milieu universel entre le monde terrestre et le monde céleste. Bon. Alors, à partir de là, clairement, le concept philosophique de dignité, il s'est constitué par rapport à cette histoire-là. Maintenant, il faut distinguer des niveaux. C'est évident que si on distingue le niveau des principes posés par des textes internationaux et puis le niveau d'un code pénal ou voire même d'un code de procédure pénale, il y a un certain nombre de médiations entre les deux. Mais ça, c'est pas à moi de les faire. Oui, enfin, je veux dire, on ne punira jamais quelqu'un, enfin, je me trompe peut-être, mais on ne punira jamais quelqu'un parce qu'en tant que tel, il a attenté à la dignité humaine. Ce sera pour voie de fait ou pour quelque chose comme ça, non?
Bon, peut-être, à la suite de votre exposé, on pourra avoir ce débat dans l'autre sens. D'autres questions? Pas de questions? Oui, madame.
Simplement un point. Vous avez distingué le respect de reconnaissance et le respect d'évaluation. Pour les autres, pas de problème. Pour soi-même, le respect d'évaluation ou d'approbation, à moins que ce ne soit pas ce que vous ayez voulu dire, nécessairement porte sur des états ou des actes passés. Qu'en est-il pour surtout les êtres jeunes qui ont peut-être... je vous pose la question, à respecter, et ça c'est dans la lignée kantienne, des potentialités à exprimer plutôt qu'à mutiler un peu tôt. Je ne parle pas seulement du suicide, oui. N'est-ce pas?
Oui, c'est une bonne question. Si vous voulez, moi j'ai distingué, enfin, voyez bien, le principe de mon analyse, ça a été de dire, à la suite de Darwal, il y a deux sortes de respect, un respect de reconnaissance et un respect d'évaluation. Bon, le respect de reconnaissance, on le doit aux autres pour ce qu'ils sont. Tout simplement, des individus humains qui ont leur conception de la vie bonne et par rapport auxquels c'est une intrusion que de ne pas reconnaître ça. Et puis, il y a le respect d'évaluation qu'on peut aussi donner aux autres, qu'on peut aussi concéder aux autres parce qu'on reconnaît qu'ils ont fait quelque chose d'eux-mêmes et qu'on approuve ce qu'ils ont fait d'eux-mêmes, alors que par rapport à soi-même, il y a, à mon sens, il n'y a que du respect d'approbation. C'est ça ma thèse substantielle. Le respect de reconnaissance, ce n'est pas un respect qu'on se doit à soi-même. D'accord ? Bon, alors maintenant, vous posez effectivement le problème des êtres humains qui sont dans une situation telle, soit parce qu'ils sont très jeunes, soit parce qu'ils sont devenus déments, soit parce qu'ils sont dans un état de sénilité complète, etc., qui peuvent plus ou qui peuvent pas se donner à eux-mêmes un respect d'évaluation, c'est ça? Ben, à ce moment-là, il me semble qu'il y a le minimum syndical, à savoir qu'on leur doit un respect de reconnaissance. Oui, bien sûr, oui. Oui, mais ça... Oui, enfin, si vous voulez, moi, j'ai du mal à saisir où est la difficulté. À partir du moment où on leur doit un respect de reconnaissance, on a...
Eux-mêmes.
Oui.
Et par quels biais peut-on les amener à considérer que même s'ils ont évalué ce qu'ils ont fait, ils ont peut-être à respecter ou à tarder une
potentialité.
Une potentialité qui n'est pas vertueuse, qui n'est pas de corrigeable. Oui. Un certain devoir vis-à-vis d'eux-mêmes pour enrayer une spirale de fascination de
l'autonomie. Non, ça joue. Enfin. Pour le cas des enfants, puisque c'est de là que vous êtes parti initialement.
Oui.
Bon, là, il me semble qu'il y a une moralité commune qui est à l'œuvre et qui reconnaît un certain nombre de valeurs élémentaires de vie en commun qui doivent s'appliquer.
Bon, je pense qu'on va, on va en rester là. Bah,
c'est pas un philosophe de dire ça.
Bon, merci.